tous ceux qui sont sur Zoom. Alors, si je ne parle pas assez fort, vous me faites signe. Si sur Zoom, vous ne m'entendez pas bien, vous le dites à Bruno, qui peut me faire signe pour que je parle plus fort. Parce que, effectivement, j'ai tendance à baisser la voix quand j'oublie. Alors, nous avions fait toute une série de messages sur Ézéchiel. Et puis, en ayant fini, je me demandais comment continuer. Et Olivier m'avait fait plusieurs propositions. Et il m'a entre autres parlé du livre d'Agé. Et puis, j'ai longuement réfléchi. Et puis, je trouvais que c'était intéressant d'effectivement de continuer quelque part l'histoire d'Israël, de pouvoir parler du retour de Babylone, du retour partiel. Parce que voilà, c'est quelque chose d'extrêmement important. Quand on parle d'Israël, effectivement, on pense souvent à la sortie d'Égypte. Mais le retour de Babylone est quelque chose qui a fait un peu comme la sortie d'Égypte, peut-être un peu moins important. Néanmoins, c'est quelque chose qui est très important et qui a quelque chose à nous apporter, à nous apprendre. Mais qu'est-ce que ça peut nous apporter dans la vie d'aujourd'hui? C'est peut-être ce que vous pouvez vous dire, c'est l'Ancien Testament, c'est vieux, c'est il y a 2500 ans à peu près. En tout cas, voir comment Dieu a agi dans le passé nous aide à croire comment Dieu agit aujourd'hui et comment il agira par la suite, notamment par rapport à toutes les prophéties qui ont été faites. Ce qu'il a promis dans le passé, il l'a fait. Ce qu'il a dit qu'il fera maintenant et qu'il fera dans le futur, il le fera aussi. Et il a mille et une manières d'accomplir ce qu'il a dit. Il y a une autre raison. Cela nous aidera aussi à répondre à notre appel que Dieu nous lance aujourd'hui à chacun. Nous sommes en train de sortir de la pandémie, enfin, en tout cas, nous l'espérons tous. Enfin, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Est-ce qu'on en sort vraiment? Je ne m'avancerai pas là-dessus. Il y a tellement de choses qui ont été dites à tort et en travers. En tout cas, on peut se réjouir et louer Dieu parce que ça va mieux. Je crois que, voilà, ça, on peut l'affirmer. Notre contexte n'est pas le même qu'à l'époque. Cependant, Dieu n'a pas changé. Son projet pour l'humanité n'a pas changé. Son appel à vivre notre vie de disciple est tout autant d'actualité qu'il y a 25 siècles. Donc voilà, plein de raisons qui font que j'ai trouvé intéressant de parler de livre d'Agé, dont on ne parle pas très couramment. Alors, en parlant d'Agé et de la sortie de Babylone, on ne peut pas parler d'Agé tout seul, parce que c'est vrai que c'est un livre qui n'est pas très long d'ailleurs, qui est un peu un résumé. Il y a beaucoup de faits historiques et de détails qui sont cités dans Esdras et Néhémie, qui sont deux livres qui datent. Esdras et Néhémie sont venus environ 60 ans plus tard que Agé. D'ailleurs, le prophète Agé n'était pas seul, il y avait le prophète Zacharie. Quand on parle de la sortie de Babylone, on parle souvent Esdras et Néhémie, et on oublie souvent qu'est le prophète Zacharie. Alors aujourd'hui, nous allons lire des extraits de ces trois livres. Alors, pour commencer, quelques contextes historiques. C'est en 539, la prise de Babylone par Cyrus. Oh, ça me résonne un peu dans les oreilles, c'est normal. Enfin, je sais pas. Ou je parle pas assez fort. Faut que je monte, d'accord. En 539, donc c'est le Cyrus, l'empereur de Perse, qui conquiert, qui s'accapare de Babylone, qui détruit Babylone. Alors c'est un immense empire qui évolue un petit peu et qui va encore s'agrandir avec son fils, Cambyse. Mais, comment dire, pour un peu la surface, c'est immense. Ça va un peu pratiquement de l'Éthiopie au Danube jusqu'en Inde. C'est à peu près la même surface que l'Empire grec. On connaît beaucoup, beaucoup mieux l'Empire grec. Mais en tout cas, c'est un immense empire. Et donc, c'est en 539 que Babylone a été vaincue. Alors, vous avez remarqué que j'ai rien à projeter. Effectivement, j'ai fait le choix de dire je ne fais rien. Vous savez, je ne suis pas très à l'aise avec ça. Je gère mieux mes machines que l'ordinateur. Ça me stresse moins. Et puis, c'est déjà un très gros travail de faire le tri dans ce que j'ai découvert. Donc, je me suis dit, je ne projette absolument rien. Par contre, si vous voulez mes notes, c'est tout à fait possible, qui sont encore plus complètes que ce que je vais vous dire. Et puis, je vous invite à tout simplement vérifier dans la Bible, à vérifier en lisant les textes qu'on lira, mais en complétant, parce que j'ai vraiment pris les choses les plus importantes, les plus... On ne peut pas tout lire ce qui aurait été intéressant. Donc, je vous invite à vérifier dans la Bible, mais je vous invite aussi à vérifier sur Internet ou des livres à la bibliothèque. Il y a énormément des choses qui sont disponibles. Et moi, j'ai appris énormément de choses en lisant dans des livres que j'ai empruntés à la médiathèque. Et c'est, comment dire, ça donne... Pour dire ce que ça peut apporter, moi, c'est comme si vous regardez un film en normal, et puis après, vous mettez des lunettes, vous la regardez en 3D. C'est un petit peu ça. Vraiment, ça aide à mieux comprendre la parole de Dieu. Voilà, entre parenthèses. Donc, nous revenons à cet empire perse, et donc à Cyrus, après sa victoire en 539. L'année suivante, il écrit un édit qui est assez connu, je pense que vous le connaissez, pour des non-croyants. C'est quelque part l'équivalent d'une proclamation du droit de l'homme. C'est le premier empire qui laisse de telles libertés. Nous croyons vraiment que c'est Dieu qui a permis ces circonstances. En tout cas, a utilisé ces circonstances pour accomplir son plan. Je vais lire dans Esdras, chapitre 1, versets 1 et 2. La première année du règne de Cyrus, le Perse, l'Éternel, pour accomplir la parole qu'il avait prononcée par le prophète Jérémie, c'est pas le seul prophète qu'il avait annoncé d'ailleurs. Je rappelle que Olivier, dans un message, nous avait déjà prédit la chute de Babylone 150 ans avant que l'Empire babylonien était menaçant. Alors, donc Dieu agit sur l'esprit de Cyrus, empereur de Perse. Alors Cyrus fit faire oralement et par écrit la proclamation suivante à travers tout son empire. Voici ce que je déclare, Cyrus, empereur de Perse. L'Éternel, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre. Il m'a chargé de lui construire un temple à Jérusalem, en Juda. Quels sont ceux d'entre vous qui font partie de son peuple ? Que leur Dieu soit avec eux et qu'ils partent à Jérusalem, en Juda, pour reconstruire le temple de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui réside à Jérusalem. Que partout où résident ceux qui restent de son peuple, les gens de l'endroit leur apportent des dons d'argent et d'or, de divers biens, du bétail, ainsi que des offrandes volontaires pour le temple de Dieu qui est à Jérusalem. Quelque part, c'est incroyable, et je pense que ça devait être une révolution, entendre ça après 70 ans de captivité. Vous vous souvenez tout ce qu'on avait vu, les souffrances qu'ils ont vues en Babylone. C'est humainement quelque chose d'inespéré. Dieu a permis ça. Et puis, moi, je m'imagine recevoir une telle nouvelle. Et pour ceux qui sont partis, arriver, recommencer les travaux, construire. On est plein d'enthousiasme, plein de courage. Et on arrive sur place, on voit tout ce qu'il y a à faire. Le découragement, il arrive très facilement. Une petite image, souvent quand je pars une journée de l'atelier ou même après les vacances, avant de revenir, je pense à mon retour ce que je vais faire. Et puis, une fois sur place, le premier jour, souvent, c'est un peu le bazar dans la tête. Et on a vraiment du mal à s'y remettre. Et là, c'est après 70 ans d'absence, c'est forcément pas simple, c'est forcément difficile, et l'aide de Dieu est absolument indispensable. Donc cette décision de Cyrus s'inscrit dans une politique générale de l'Empire. Ça n'a pas été fait simplement pour Israël. Mais c'est quand même ce moyen que Dieu utilise pour accomplir sa prophétie. Je relis juste le premier verset. La première année de Cyrus, le Perse, l'Éternel pour accomplir la parole qu'il avait prononcée par Jérémie, par le prophète Jérémie. Pour certains, c'est la première déclaration de l'homme de l'histoire de l'humanité, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais là, c'est vraiment Dieu qui permet cette déclaration pour faire avancer son œuvre. Dieu a utilisé cet empereur pour faire avancer son plan, cet empereur qui était un païen. Au passage, c'est toutes les autres nations qui en ont profité. Et oui, pour les non-chrétiens, quelque part, on peut dire oui, c'est pas particulier à Israël. Dieu a donné l'autorisation Cyrus a donné l'autorisation à tous les peuples de l'Empire le droit de vivre leur foi propre à chacun. Mais n'empêche que Dieu était derrière. Pour nous, aujourd'hui, si vous écoutez la radio, c'est difficile d'y échapper, de dire que c'est le vaccin qui va nous libérer du Covid. C'est vrai que Dieu a permis, effectivement, que les scientifiques puissent découvrir ce vaccin. Par ce moyen, libérer l'humanité. Mais n'empêche que c'est quand même Dieu qui a donné cette autorisation. Et nous pouvons être reconnaissants que Dieu a permis cela. En fait, tout simplement, Dieu utilise l'homme pour le bénir. Et même si c'est des gens qui ne sont pas chrétiens, il peut les utiliser aussi et il aime utiliser l'homme pour nous faire avancer. Et ça, on peut le vérifier tout au long de la Bible. Alors, je me répète un peu ce que j'avais déjà dit dans Ézéchiel. Le projet de Dieu pour son peuple ne change pas. Je me répète, mais je crois qu'il est bon de se répéter. Nous avons besoin de certaines choses de répéter souvent. Et pour cela, nous allons lire dans le livre de Zacharie. Nous allons lire du verset 11 à 17. Mais je vous invite vivement chez vous à lire tout le chapitre, parce qu'il éclaire beaucoup de choses sur ce qui s'est passé dans Babylone, pourquoi, comment. Juste deux mots avant de lire. Après la mort de Cyrus, c'est Cambyse, son fils, qui est devenu empereur. À ce moment-là, il y a eu pas mal d'agitations, de révoltes dans l'Empire. Et donc, il s'est chargé de mater tout ça. Il a conquis l'Égypte, il a écrasé l'Égypte. Et en passant, il a annulé ce que Cyrus avait décidé. Mais 16 ans après l'édit de Cyrus, c'est Darius qui a pris le pouvoir, qui n'est pas de la même famille. Mais en tout cas, c'est lui qui est devenu empereur. Et puis, il a réautorisé la continuité des travaux. Alors, je vais lire dans le livre de Zacharie. Alors, Zacharie a eu une vision, donc c'est une partie de la vision que je vais lire. Voilà, je lis. Alors, les cavaliers s'adressèrent à l'ange de l'Éternel qui se tenait parmi les myrtes et lui firent ce rapport. Nous venons de parcourir la terre et nous avons constaté qu'elle est toute tranquille et calme. Là-dessus, l'ange de l'Éternel s'exclama. Seigneur des armées célestes, voilà 70 ans que tu es irrité contre Jérusalem et contre les villes de Juda. Jusqu'à quand tarderas-tu à les prendre en pitié? Alors l'Éternel répondit à l'ange qui me parlait par des paroles bienveillantes et des paroles de consolation. L'ange qui me parlait me dit, proclame ces paroles. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. J'éprouve pour Jérusalem et pour Sion un amour passionné. Et je suis saisi d'une violente indignation contre les nations qui vivent dans la tranquillité. Car je n'étais qu'un peu irrité contre mon peuple, mais elles ont accru son malheur. C'est pourquoi, voici ce que dit l'Éternel. Je me tourne vers Jérusalem avec compassion. Mon temple y sera rebâti. Le Seigneur des armées célestes le déclare. Et l'on étendra le cordeau d'arpenteur sur Jérusalem. Proclame ce message. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Mes villes déborderont de nouveau de prospérité. L'Éternel consolera de nouveau Sion et choisira de nouveau Jérusalem. Voilà. Dieu ne change pas son plan. Dieu continue le projet pour l'humanité. Je trouve que ces paroles sont beaucoup plus riches, plus efficaces que ce que moi je peux vous dire. Et c'est vraiment encourageant d'avoir des mots de la part de Dieu qui nous parlent de cette manière-là. Alors j'aimerais vous faire remarquer, dans ce passage que j'ai lu, deux fois il est question de peuples qui vivent dans la tranquillité. Au verset 11, « Nous venons de parcourir la terre et nous avons constaté qu'elle est toute tranquille. » Et au verset 15, « Et je suis saisi d'une violente indignation contre les nations qui vivent dans la tranquillité. » Effectivement, sous Darius, tout l'empire était calme. Les révoltes ont été matées et tout était calme. Alors, quelque part, en Europe, on est tellement fiers que depuis 1945, il n'y a pas de conflit et on peut s'en réjouir, vraiment. Mais cela, dans ce contexte-là, un autre signification aussi. Israël sortait de déportation, a connu les problèmes avec Babylone. Avant cela, c'était les Assyriens. Quand on lit des livres, je suis en train de lire un livre sur les Assyriens, mais c'est, comment dire, il y a un petit piège parce que c'est des civilisations méconnues, mais qui quand même importantes. Et on pourrait presque tomber en admiration, il faut s'en méfier. Mais elles sont terribles parce qu'il y a quand même des rois qui, pour contrôler les peuples, pour leur faire peur. Quand ils écrasent une ville, on amassole, on fait un tas de têtes coupées devant la ville, on écorche vif le roi et on tapisse les murs avec sa peau. C'est des choses horribles. C'est Israël qui a vécu ça. Et voilà qu'ils sont sous un nouvel empire, l'empire perse, qui est calme. Cela veut dire tout simplement, concrètement, si c'est calme, c'est un empire qui risque de ne pas être renversé tout de suite. Voilà le côté très négatif. Même s'il ne se passe rien, Dieu y voit ce qui se passe et il prépare la suite. Ça, c'est vrai dans tous les contextes. Il ne faut pas se fier à ce qui est visible pour nous. Dieu continue son œuvre en tout temps. Voilà, et c'est dans ce contexte que nous voyons, que nous allons lire un passage dans Agée, les premiers versets dans le livre d'Agée. Des travaux de reconstruction avaient été commencés, ils ont été arrêtés, ils ont été bloqués pour différentes raisons, des raisons politiques, du découragement. Mais Dieu, il a son projet. Nous lisons dans Agée chapitre 1, le verset 1 à 4. Pardon, je me suis trompé, 1 à 8. La deuxième année du règne de Darius, le premier jour du sixième mois, l'Éternel adressa la parole à Zorobabel, fils de Shéatiel, gouverneur de Juda, et Josué, fils de Yotsadak, le grand prêtre par l'intermédiaire du prophète Agée. Voici le terme de ce message. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Les gens de ce peuple prétendent « Le temps n'est pas venu encore, le temps où le temple de l'Éternel doit être rebâti. » Alors la parole de l'Éternel leur fut adressée par le prophète Agée. Est-il temps pour vous-même d'habiter à votre aise dans des maisons lambrisées, alors que ce temple est en ruine ? Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Quels sont ceux d'entre vous qui font partie de son peuple ? Que leur Dieu soit avec eux et qu'ils partent à Jérusalem, en Juda, pour reconstruire le temple de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui réside à Jérusalem. Que partout où résident ceux qui restent de son peuple, les gens de l'endroit leur apportent des dons d'argent et d'or, de divers biens, du bétail, ainsi que des offrandes volontaires pour le temple de Dieu qui est à Jérusalem. Ah ben, je me réjouis de ce que vous écoutez. Pardon. C'est bien, vous êtes attentif. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc à ce qui vous arrive. Vous semez largement, mais vous récoltez peu. Vous mangez, vous buvez, sans être rassasié et sans étancher votre soif. Vous vous couvrez d'habits, sans être réchauffé, et le salaire que gagne l'ouvrier va dans une bourse trouée. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Allez à la montagne, rapportez-en du bois et bâtissez le temple. J'y trouverai plaisir et je serai glorifié, déclare l'Éternel. Voilà, un appel à se mettre en œuvre. Un appel à se mettre, à s'intégrer dans le projet de Dieu. Dans ce texte d'Agé, il est question de soi, de confort. Nous avons tous été touchés d'une manière ou d'une autre par la pandémie, je le pense. Qu'on le soit conscient ou pas, certains ont été malades, certains ont été très malades, mais nous avons tous été bousculés. Personnellement, je n'ai pas été arrêté du tout pour travailler. Cela, au contraire, m'a donné un peu d'air. Par exemple, quand je rentrais, je pouvais rentrer en dehors des heures de confinement. Ça m'est arrivé de rentrer et à la pleine lune en vélo. Il n'y avait personne, pas de voiture. C'était tellement beau que j'éteignais les feux de mon vélo, donc je roulais totalement uniquement au clair de lune. C'est une expérience extraordinaire et que je n'aurais jamais pensé pouvoir faire. Mais n'empêche, on est quand même bousculé. Et après le confinement, revenir au culte, se lever le matin, se dire « bon, aujourd'hui, c'est pas sur Zoom, il me faudra plus de temps pour me préparer. » Ben, c'est peu de choses, mais n'empêche que cela demande un effort. Et chacun a vécu des choses différentes, mais il est temps vraiment de se rappeler que l'œuvre de Dieu nous appelle, que Dieu continue son œuvre, et Dieu veut que nous rentrions dans ce que lui, il veut faire. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur quoi Dieu veut vous parler, vous remettre en question. Il est question ici de confort, il n'est pas question de temps. Mais souvent dans notre société à nous, souvent on dit « j'ai pas le temps ». Effectivement, c'est vraiment souvent compliqué à gérer. Et quand on pense à l'Église, souvent on entend dire, mais qu'est-ce qu'elle m'apporte? Ou il y a cette idée de dire, voir qu'est-ce que l'Église fait pour moi? Mais on oublie trop souvent, qu'est-ce que je fais pour l'Église? Et souvent dit, les frères et sœurs, les relations ne sont pas simples ou pas assez existantes à notre goût. Mais qu'est-ce que je fais pour rentrer en relation avec mes frères et sœurs? Parce que la réalité, c'est que nous sommes sauvés, oui, pour être en relation avec Dieu. Nous sommes sauvés aussi pour restaurer la relation avec nos frères et sœurs. Et je pense que c'est quelque chose qui a beaucoup souffert avec le Covid et dont nous avons besoin de retrouver de nouvelles pistes, de nouvelles manières de faire. Israël est revenu à Jérusalem, ils ont pas reconstruit le même temple, il était plus grand. Dieu a permis que la suite était plus grande que ce qui existait avant. Dieu ne nous appelle pas maintenant à faire la même chose que nous faisions avant, mais d'aller plus loin. Le projet de Dieu n'a pas changé. Je suis, moi, une pierre vivante qui est appelée à s'insérer dans la construction du peuple de Dieu, tout entier, dans sa construction. Pour résumer cet appel d'Agée, pour prendre des mots du Nouveau Testament, on pourrait citer Matthieu 6, verset 33. Je lis, « Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première, et toutes ces choses vous seront données en plus. » C'était la version du Semeur, je vous le lis en français courant aussi. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de sa justice. Pardon, j'ai mal lu. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. Alors, je vous propose de passer un petit temps dans la prière et réfléchir ce que Dieu vous dit. Où est-ce qu'il vous appelle à avancer? Où est-ce qu'il vous appelle à vous remettre en question? Qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau pour faire avancer l'Église, pour faire avancer avant tout l'œuvre de Dieu. En temps de prière, de réflexion, et puis Cédric, je ne vois plus. Ah oui, d'accord. Oui. C'est Cédric qui va clore ce temps de prière.